Bonsoir. Alors, je vais donc vous lire des passages, des morceaux choisis du roman de Marlène Haushofer, Le mur invisible. Aujourd'hui, 5 novembre, je commence mon récit. Je noterai tout, aussi exactement que possible. Pourtant, je ne sais même pas si aujourd'hui est bien le 5 novembre. Au cours de l'hiver dernier, quelques jours m'ont échappé. Je ne pourrais pas dire non plus quel jour de la semaine c'est, mais je pense que cela n'a pas beaucoup d'importance. Je n'ai à ma disposition que quelques rares indications, car il ne m'était jamais venu à l'esprit d'écrire ce récit, et il est à craindre que dans mon souvenir, bien des choses ne se présentent autrement que je les ai vécues. Je n'écris pas pour le seul plaisir d'écrire. M'obliger à écrire me semble le seul moyen de ne pas perdre la raison. Je n'ai personne ici qui puisse réfléchir à ma place ou prendre soin de moi. Je suis seule et je dois essayer de survivre au long et sombre mois d'hiver. Il est peu probable que ces lignes soient un jour découvertes. Pour l'instant, je ne sais pas si je le souhaite. Je le saurai peut-être quand j'aurai fini d'écrire ce récit. J'ai entrepris cette tâche pour m'empêcher de fixer les yeux grands ouverts le crépuscule et d'avoir peur. Car j'ai peur. La peur de tous côtés monte vers moi et il ne faut pas attendre qu'elle m'atteigne et me terrasse. J'écrirai jusqu'à ce que la nuit tombe et jusqu'à ce que ce travail dont je n'ai pas l'habitude me rende somnolente, la tête vide. Ce n'est pas le matin que je crains, mais les longs après-midi ténébreux. Je ne sais pas au juste quelle heure il est, sans doute autour de 3 heures. J'ai perdu ma montre, mais de toute façon, elle ne m'était pas d'un grand secours. Une minuscule montre bracelet en or, le genre de bagatelle précieuse à qui il ne faut pas demander de donner l'heure exacte. Je possède un stylo à billes et 3 crayons. J'écris au dos de vieux calendriers ou sur du papier à lettres commercial jauni. Le papier à lettres vient de Hugo Rüttlinger, un grand collectionneur d'objets et un non moins grand hypochondriaque. Il est juste que ce récit commence par Hugo, car si sa manie de collectionner et son hypochondrie n'avaient pas existé, je ne serais pas aujourd'hui assise ici. Il est probable que je ne serais même plus en vie. Hugo était le mari de ma cousine Louise et c'était un homme assez fortuné. Sa richesse lui venait d'une usine de chaudière. Je l'aimais bien et je partageais son amour de la forêt et son goût pour les journées tranquilles passées au chalet. Je restais près de lui sans le déranger pendant qu'il dormait dans son fauteuil. Je faisais de courtes promenades et j'étais heureuse de jouir un peu du calme après l'agitation de la ville. Louise chassait avec passion. C'était une rousse à la santé robuste qui flirtait avec tous les hommes qui croisaient son chemin. Comme elle détestait tenir une maison, elle était ravie que je m'occupe de Hugo, que je lui prépare son chocolat ou lui mélange ses innombrables mixtures. À cette époque, on parlait beaucoup d'une guerre atomique et de ses conséquences. Ce qui poussa Hugo à stocker dans son chalet de chasse une petite provision de denrées alimentaires et d'objets de première nécessité. Louise trouva ridicule cette précaution. Elle se mit en colère et objecta que les gens en parleraient et que ça finirait par attirer les voleurs. Le 30 avril, les Rüttlinger m'invitèrent à les accompagner à leur chalet. J'étais veuve depuis 2 ans, mes filles étaient presque adultes, et je pouvais disposer de mon temps comme bon me semblait. À vrai dire, je ne faisais pas grand usage de ma liberté. J'ai toujours été sédentaire de nature, et c'est encore chez moi que je me suis toujours sentie le mieux. mais j'acceptais presque toujours les invitations de Louise. J'aimais le chalet et la forêt, et 3 heures de voiture ne me faisaient pas peur. Ce 30 avril-là, j'acceptais donc leur invitation. Nous devions rester 3 jours et personne d'autre n'était invité. Le chalet est une véritable villa de bois à un étage, construite en tronc massif qui aujourd'hui encore est resté en assez bon état. Au rez-de-chaussée, il y a une grande salle de style paysan, une chambre à coucher et une petite pièce. Au premier étage, entouré d'une véranda de bois, 3 petites chambres pour les invités. Je logeais dans une de ces chambres, la plus petite. À 50 pas sur une pente qui descend vers le ruisseau, se trouve la maison du garde-chasse, qui n'est qu'une cabane d'une seule pièce, et tout près de la route, un garage de planches. Nous avons fait le trajet en 3 heures, comme prévu, et nous nous sommes arrêtés au village pour aller chercher le chien de Hugo, chez le garde-chasse. Ce chien, un braque de Bavière, appartenait à Hugo, mais il avait été élevé par le garde-chasse qu'il avait dressé. Si étonnant que cela puisse paraître, le garde avait obtenu du chien qu'il reconnaisse Hugo comme son maître. Par contre, il n'avait pas pu lui faire accepter Louise. Le chien refusait de lui obéir et ne l'approchait pas. Nous n'arrivâmes au chalet qu'à 3 heures. Hugo sortit aussitôt du coffre de la voiture les nouvelles provisions et il les porta dans la petite pièce du bas. Je fis du café sur le réchaud à alcool et après le goûter, alors que Hugo commençait à s'assoupir, Louise lui proposa de retourner avec elle au village. C'était bien entendu pure méchanceté de sa part. Mais elle eut l'habileté de mettre en avant qu'un peu de mouvement était indispensable à sa santé. Il était presque 5 heures quand elle parvint à ses fins et partit avec lui, triomphante. Je savais que cela finirait à l'auberge du village. Louise aimait la compagnie des bûcherons et des valets de ferme, et jamais il ne lui serait venu à l'esprit que ces paysans rusés pouvaient se moquer d'elle derrière son dos. Je débarrassai la table, puis je suspendis les vêtements dans les armoires, après quoi je m'assis au soleil sur le banc devant la maison. Le temps était beau et chaud, et le bulletin météorologique avait prévu que cela allait durer. Le soleil baissait déjà au-dessus des pins et ne tarderait pas à se coucher. Le chalet est situé dans une petite cuvette à l'extrémité d'une gorge sous les parois abruptes de la montagne. Pendant que je jouissais de la dernière chaleur sur mon visage, je vis revenir Lynx. Il avait sans doute refusé d'obéir à Louise et avait dû se faire renvoyer. Je compris qu'elle l'avait grondé. Il s'approcha de moi, me regarda avec anxiété et posa sa tête sur mes genoux. Nous restâmes ainsi un moment. Je caressais Lynx en lui parlant pour le consoler, car je savais que Louise ne le traitait pas comme il le méritait. Dès que le soleil eut basculé derrière les pins, l'air devint plus froid et des ombres bleuâtres envahirent la clairière. Je rentrai dans la maison avec Lynx, allumai le fourneau et me mis à préparer une sorte de risotto. Bien sûr, je n'étais pas obligée de le faire, mais j'avais faim et je savais que Hugo préférerait un repas chaud. À 7 heures, les maîtres de maison n'étaient toujours pas rentrés. D'ailleurs, c'était normal. Je calculais qu'il ne pourrait pas être de retour avant 8h30. Je donnai donc à manger au chien, avalai ma portion de risotto, puis je me mis à lire les journaux que Hugo avait apportés à la lueur de la lampe à pétrole. La chaleur et le silence me donnèrent sommeil. Lynx s'était retiré sous le poêle et soupirait de satisfaction. À 9h, je décidai d'aller me coucher. Je fermai la porte à clé et emportai la clé dans ma chambre. J'étais si fatiguée que je m'endormis tout de suite, malgré le froid humide de l'édredon. Je fus réveillée par le soleil sur mon visage et immédiatement me revint à l'esprit ce qui s'était passé la veille. Comme le chalet n'avait qu'une clé, l'autre restant chez le garde-chasse, si Louise et Hugo étaient rentrés, ils auraient dû me réveiller. Je me précipitai en robe de chambre dans l'escalier et ouvris la porte d'entrée. Lynx m'accueillit avec des jappements de joie, se faufila entre mes jambes et s'élança dehors. J'ouvris la porte de la chambre tout en sachant qu'il n'y aurait personne. La fenêtre en effet était grillagée et à supposer qu'elle ne l'ait pas été, Hugo n'aurait jamais pu passer par là. Naturellement, les lits n'étaient pas défaits. Il était 8 heures. Le couple avait certainement passé la nuit au village. Cela m'étonnait pourtant. Hugo avait horreur des lits d'auberge toujours trop courts et il était trop bien élevé pour me laisser seule au chalet toute la nuit. Je ne pouvais pas m'expliquer ce qui s'était passé. Je remontai m'habiller dans ma chambre. Il faisait encore très frais et la rosée étincelait sur la Mercedes de Hugo. Je fis à peine attention à la froide humidité de la gorge tant j'étais préoccupée par ce qui avait bien pu arriver au Rüttlinger. Peut-être que Hugo avait eu une crise cardiaque. Comme c'est souvent le cas avec les hypochondriaques, nous n'avions jamais pris son état au sérieux. Je pressai le pas et envoyai Lynx en avant. Il partit en aboyant joyeusement. Je n'avais pas pensé à mettre mes chaussures de montagne et je trébuchais maladroitement sur les cailloux pointus. Quand j'atteignis enfin l'entrée de la gorge, j'entendis Lynx hurler de douleur et de terreur. Je contournai un tas de bois qui m'empêchait de le voir et je le trouvai assis, en train de gémir. Des gouttes de salive rouge tombaient de sa gueule. Je me penchai sur lui pour le caresser. Il se serra contre moi en poussant des cris plaintifs. Sans doute s'était-il mordu la langue ou bien cogné une dent. Mais quand je l'encourageai à repartir, il mit sa queue entre ses pattes, se plaça devant moi et de tout son corps me força à reculer. Je ne voyais pas ce qui pouvait lui faire si peur. À cet endroit, la route débouchait de la gorge et, à perte de vue, s'étendait, vide et paisible, sous le soleil matinal. Agacé, je repoussai le chien et continuai à avancer seul. Heureusement que son manège avait ralenti ma marche. Car quelques pas après, je me cognais durement la tête et reculais en chancelant. Aussitôt, Lynx se remit à pousser des gémissements et à se presser contre mes jambes. Interdite, j'allongeai la main et je sentis quelque chose de froid et de lisse. Une résistance lisse et froide à un endroit où il ne pouvait y avoir rien d'autre que l'air. Je recommençai en hésitant encore une fois. Et à nouveau, ma main se posa sur la vitre d'une fenêtre. À ce moment, j'entendis frapper bruyamment et je regardai autour de moi avant de comprendre que c'était mes propres battements de cœur qui retentissaient à mes oreilles. Mon cœur avait eu peur avant que je le sache. Je m'assis au bord de la route sur un tronc d'arbre et j'essayais de réfléchir. Je n'y parvins pas. C'était comme si toute pensée m'avait subitement abandonnée. Lynx s'avança vers moi en rampant et sa salive sanglante se mit à tomber goutte à goutte sur mon manteau. Je le caressai jusqu'à ce qu'il se calme et nous restâmes là tous les deux, les yeux sur la route qui s'étendait, tranquille et lumineuse, sous la lumière du matin. Je me relevai 3 fois pour vérifier qu'à 3 mètres de moi existait vraiment quelque chose d'invisible, de lisse et de froid qui m'empêchait de continuer mon chemin. Je me dis qu'il devait s'agir d'une illusion des sens, mais je savais bien qu'il n'en était rien. N'importe quoi d'un peu aberrant m'aurait paru plus facile à accepter que cette terrible chose invisible. Pourtant, la gueule de Lynx continuait à saigner. et la bosse de mon front commençait à me faire mal. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur le tronc d'arbre. Je me souviens seulement que mes pensées revenaient sans cesse à des détails insignifiants, comme si elles refusaient à tout prix de s'intéresser à cette expérience incompréhensible. Le soleil montait peu à peu et me chauffait le dos. Lynx n'arrêtait pas de se lécher et finit par ne plus saigner. Il n'avait dû se blesser que légèrement. Je compris qu'il me fallait entreprendre quelque chose. Et j'ordonnai à Lynx de rester assis. Puis j'allai lentement vers l'obstacle, les mains tendues en avant, et je continuai à le suivre en tâtonnant jusqu'à l'endroit où commençait le premier rocher de la gorge. Là, il devenait impossible de continuer. De l'autre côté de la route, j'arrivais jusqu'au ruisseau. Et ce n'est qu'alors que je vis que le niveau de l'eau avait légèrement monté et que le ruisseau débordait. Pourtant, les eaux étaient basses. Tout le mois d'avril avait été sec et la fonte des neiges était déjà passée. De l'autre côté du mur, j'ai pris l'habitude d'appeler cette chose le mur. Il fallait bien lui donner un nom, puisqu'elle existait. De l'autre côté, donc, le ruisseau était à sec sur une courte distance, puis un mince filet recommençait à couler. Soudain, je remarquai, ce qui avait déjà dû tourmenter mon inconscient depuis un bon moment, que la route était absolument déserte. Comment se faisait-il que personne n'ait donné l'alarme ? Il aurait été normal que les habitants du village se massent avec curiosité devant le mur. Et à supposer que personne n'ait eu le temps de le découvrir, Hugo et Louise auraient dû s'y heurter. Le fait de ne pas apercevoir un seul homme me parut encore plus énigmatique que le mur lui-même. Je me mis à trembler, malgré le plein soleil. La première petite ferme, une simple maison de paysan, se trouvait juste après le premier tournant de la route. En traversant le ruisseau et en montant un peu, il devait être possible de l'apercevoir. Je revins près de Lynx et lui adressai quelques paroles d'encouragement. Il semblait, à vrai dire, tout à fait raisonnable. C'est plutôt moi qui aurais eu besoin d'être encouragée. J'éprouvais soudain une grande consolation que Lynx soit avec moi. J'enlevai mes chaussures et mes bas et traversai le ruisseau. Sur l'autre bord, le mur continuait le long du pré. J'aperçus enfin la petite maison. Elle était là, tranquille, dans la lumière du soleil. Un paisible tableau tellement familier. Un homme était debout près de la fontaine, le bras levé à mi-chemin entre son visage et le jet d'eau. Un vieil homme très propre. Ses bretelles pendaient comme des serpents et il avait retroussé les manches de sa chemise. Mais sa main n'atteignait pas son visage. En fait, il ne bougeait pas du tout. Je fermais les yeux, laissais passer un moment, puis je regardais de nouveau. Le vieil homme bien propre était toujours là, mais toujours sans mouvement. C'est alors que je vis qu'il s'appuyait avec le genou et la main gauche au bac de pierre de la fontaine et que c'était sans doute ce qui l'empêchait de tomber. Contre la maison poussait un jardin d'herbes potagères mêlé à des pivoines et à des parnassias. Il y avait aussi un lilas maigre et échevelé qui avait déjà cessé de fleurir. Aucune fumée ne sortait de la cheminée. Je frappai du poing contre le mur. Je me fis mal, mais rien ne se passa. Et subitement, je n'eus plus envie de briser le mur qui me séparait de cet événement incompréhensible qui était arrivé au vieil homme près de la pompe. Je retraversai le ruisseau et m'approchai de lynx qui reniflait quelque chose et semblait avoir oublié sa peur. C'était une mésange morte. Sa petite tête était fracassée et sa poitrine tachée de sang. La mésange était la première d'une longue série d'oiseaux qui trouvèrent cette fin lamentable par ce radieux matin de mai. Pour une raison inconnue, je ne pourrai jamais oublier cette mésange. Pendant que je la contemplais, je distinguais enfin les tristes cris des oiseaux que je devais entendre depuis le début, mais sans en prendre conscience. Je ne pensais plus soudain qu'à quitter cet endroit, retourner au chalet, fuir ces lugubres cris d'oiseaux et ce minuscule cadavre taché de sang. Lynx aussi redevenait inquiet et se serrait contre moi en poussant des jappements plaintifs. Tout le long du chemin, il resta près de moi et je lui parlais pour le tranquilliser. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. L'essentiel était de briser le silence. Notre situation à Lynx et à moi semblait critique, même si nous ne savions pas encore à quel point elle l'était. Mais tout n'était pas tout à fait perdu, puisque nous étions deux. Le chalet était à présent en plein soleil. Sur la Mercedes, la rosée avait eu le temps de sécher et le toit brillait d'un noir presque rouge. Quelques papillons voltaient dans la clairière et l'air charriait une douce senteur d'aiguilles de pain chauffé. Je m'assis sur le banc devant la maison et aussitôt tout ce que j'avais vu dans la gorge me parut complètement irréel. Ça ne pouvait tout simplement pas être vrai. De telles choses ne pouvaient pas arriver. Et même si elles arrivaient, ça ne pouvait pas être dans un petit village de montagne, ni en Autriche, ni en Europe. Je sais qu'il était ridicule de raisonner ainsi. Mais c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. C'est pourquoi je ne veux pas le taire. Je restais assise au soleil, bien tranquille, à regarder les papillons. Et je crois que pendant quelque temps, je n'ai vraiment pensé à rien. Lynx, qui était allé boire à la fontaine, sauta sur le banc à côté de moi et posa sa tête sur ses genoux, sur mes genoux. Je fus sensible à cette preuve d'amitié avant de réaliser que le pauvre chien n'avait plus le choix. Une heure après, je rentrais dans le chalet, réchauffais le risotto qui restait pour Lynx et pour moi, me fit du café pour m'éclaircir les idées et fumait 3 cigarettes. C'étaient mes dernières cigarettes. Quand j'eus fumé mes 3 cigarettes, je n'y tins plus et je quittai le chalet pour retourner dans la gorge. Le chien suivait sur mes talons sans enthousiasme. Je courus presque tout le long du chemin et je ne m'arrêtais haletante qu'en apercevant le tas de bois. Alors, je me mis à marcher les mains tendues jusqu'à ce que je touche la fraîcheur du mur. Je m'y attendais et pourtant le choc fut encore plus fort que la première fois. Le ruisseau était de ce côté toujours arrêté, mais de l'autre côté, le courant était devenu plus fort. Je retirai mes chaussures pour pouvoir traverser. Cette fois, Lynx hésita à me suivre et ne le fit qu'à contre-cœur. Il ne craignait pas l'eau, mais le ruisseau était glacial et lui arrivait au ventre. C'était gênant de ne pas distinguer le mur. Aussi, je cueillis une brassée de branches de noisetier et je commençai à les enfoncer dans le sol en suivant l'obstacle. Cette tâche me semblait ce qu'il y avait de plus urgent à accomplir, et elle m'absorba assez pour m'empêcher de penser à autre chose. Je plantai mes branches avec beaucoup de soin. Le terrain commença à monter et j'arrivais de nouveau à l'endroit d'où je pouvais voir la petite maison du paysan. Le vieil homme se tenait toujours près de la fontaine, la main levée vers son visage. Le petit bout de vallée que j'apercevais de cet endroit était ensoleillé, L'air transparent vibrait et se teintait de vert doré à la lisière de la forêt. Lynx avait à présent aperçu l'homme. Il s'assit, étira le cou et poussa un long et terrible hurlement. Il avait compris que la chose, près de la fontaine, n'était pas un être vivant. Son hurlement me déchira et quelque chose voulut me forcer à hurler aussi. Ce qui me déchirait semblait décidé à me mettre en pièces. Je saisis Lynx par son collier et je l'entraînai derrière moi. Il se tut et me suivit en tremblant. Lentement, je longeai le mur à tâtons, enfonçant l'une après l'autre les branches dans le sol. En me retournant, je pouvais suivre la nouvelle démarcation jusqu'au ruisseau. C'était comme si des enfants avaient joué à un inoffensif et joyeux jeu de printemps. De l'autre côté du mur, les arbres fruitiers avaient déjà laissé tomber leurs fleurs et ils montraient un brillant feuillage vert clair. À présent, le mur atteignait sur la pente un groupe de mélèzes plantés au milieu du pré. De là, je pus apercevoir deux autres petites maisons et une partie de la vallée. J'étais furieuse de ne pas avoir emporté les jumelles de Hugo. De toute façon, je ne voyais personne. Pas un être vivant. Le malheur, en y réfléchissant, avait dû se passer le soir et il avait surpris les Rüttlinger pendant qu'ils étaient encore au village ou sur le chemin du retour. Si l'homme près de la pompe était mort, et je ne pouvais plus en douter, tous les gens de la vallée devaient être morts aussi. Et non seulement les gens, mais tout ce qui avait été vivant. Dans la prairie n'était resté en vie que l'herbe et les arbres. Le feuillage nouveau se déployait, éblouissant dans la lumière. Debout, les deux paumes appuyées contre le mur froid, je contemplais fixement l'autre côté. Soudain, je ne voulus plus rien voir. J'appelai Lynx, qui était en train de gratter sous les mélèzes, et je revins sous mes pas, en suivant la petite bordure plantée comme un jeu d'enfant. Après avoir franchi le ruisseau, je continuai à placer des branches au travers de la route jusqu'au rocher, puis je retournai lentement au chalet. Après le crépuscule glauque et froid qui régnait dans la gorge, le soleil, quand on débouchait sur la carrière, frappait violemment. Lynx semblait en avoir assez de nos entreprises. Il entra en courant dans la maison et alla se fourrer sous le poêle. Comme toujours, quand il était désemparé, après avoir soufflé un peu et poussé quelques petits gémissements, il s'endormit aussitôt. Je lui enviais cette faculté. Maintenant qu'il dormait, la légère agitation qu'il créait sans cesse autour de lui me manquait. Mais il valait mieux avoir à la maison un chien endormi qu'être toute seule. Hugo, qui ne buvait pas, avait fait une petite provision de cognac, de gin et de whisky pour ses invités. Je me versai un verre de whisky et je m'assis à la grande table de chêne. Je n'avais pas l'intention de m'enivrer. Je ne faisais que chercher désespérément un remède capable de dissiper le sourd engourdissement de mon esprit. Je pris conscience qu'en pensant au whisky, j'avais pensé à mon whisky. C'était donc que je ne croyais plus au retour des propriétaires légitimes. Cela me causa un léger choc. Il était incontestable que pendant la nuit, un mur invisible était descendu, ou bien s'était élevé, et que dans la situation où j'étais, il ne m'était pas possible de trouver une explication à ce fait. Je ne me faisais aucun souci et n'éprouvais aucune crainte, et cela n'aurait eu aucun sens d'essayer de faire naître en moi de tels sentiments. J'étais assez vieille pour savoir qu'ils ne tarderaient pas à s'imposer d'eux-mêmes. La question la plus importante était de découvrir si ce malheur avait frappé seulement la vallée ou le pays tout entier. Je décidai d'opter pour la première hypothèse, car je pouvais conserver l'espoir d'être délivré de ma prison forestière d'ici quelques jours. Aujourd'hui, il me semble qu'au fond de moi-même, je n'ai jamais vraiment cru à cette possibilité. Mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, je fus assez raisonnable pour ne pas abandonner cet espoir tout de suite. Après un certain temps, je sentis que mes pieds me faisaient mal. J'enlevai mes chaussures et mes bas et je vis que j'avais attrapé des ampoules en marchant. Cette douleur venait à point pour m'aider à chasser les pensées inutiles. Après avoir pris un bain de pieds et enduit mes talons de pommade en les recouvrant d'un pansement adhésif, je décidai d'installer le chalet de la façon qui me paraissait la plus supportable. Tout d'abord, je sortis de la chambre le lit de Louise et le poussai dans la cuisine. Je le plaçai dans un coin de telle sorte qu'il me soit possible de voir toute la pièce, ainsi que la porte et la fenêtre. J'étendis devant une peau de mouton qui appartenait à Louise dans le secret espoir que lynx en ferait sa couche. En fait, ce ne fut pas le cas et il continua à dormir sous le poêle. J'allai aussi chercher la table de nuit. Ce n'est que plus tard que j'attirai l'armoire dans la cuisine. Je rabattis les volets de la chambre et je la fermai à clé. Puis je condamnai les chambres du premier étage et j'accrochai toutes les clés à un clou à côté du fourneau. Je ne sais pas ce qui me poussait à agir de la sorte. Une sorte d'instinct, sans doute. Il fallait que je puisse tout embrasser d'un seul regard pour m'assurer contre les attaques. J'accrochai le fusil de Hugo, chargé, près du lit et je posai la lampe tempête sur la table de nuit. Toutes ces précautions que je prenais ne pouvaient concerner, je le savais, que des personnes humaines, et c'était ridicule. Mais comme jusqu'à ce jour, les dangers ne m'étaient venus que des humains, j'étais incapable de changer si vite d'opinion. L'homme était le seul ennemi que j'avais connu dans mon ancienne vie. Je remontais le réveil de voyage, puis j'allais chercher du bois scié qui était empilé sous la véranda, et je le rangeais à côté du poêle. Entre-temps, le soir était venu et l'air frais de la montagne baignait la pièce. Le soleil illuminait la clairière. Mais les couleurs devenaient peu à peu plus froides et plus dures. Un pic frappait des coups dans la forêt. J'étais contente de l'entendre. Lui, et aussi le clapotis de l'eau de la fontaine qui coulait dans le bac de bois en jets gros comme le bras. Je posai mon manteau sur mes épaules et je m'assis sur le banc devant la maison. De là, je pouvais voir le chemin jusqu'à la gorge, la cabane du garde, le garage et derrière les pins obscurs. Plusieurs fois, il me sembla entendre des pas dans la gorge, mais c'était évidemment une illusion. Je passai un moment à contempler quelques fourmis géantes qui passaient devant moi en une petite procession hâtive, sans penser à rien. Le pic s'arrêta de frapper, l'air se fit de plus en plus frais et la lumière devint bleuâtre et froide. Au-dessus de moi, le petit coin de ciel se teinta de rose. Le soleil avait disparu derrière les pins. Les prévisions de la météo s'étaient révélées justes. Cette pensée me fit soudain souvenir de la petite radio de la voiture. À travers la vitre restée à demi baissée, je pressai le bouton noir. Après un court instant, ne parvint qu'un léger grésillement. La veille, pendant le trajet, j'avais été mécontente que Louise écoute de la musique de danse. Maintenant, la moindre musique m'aurait fait tressaillir de joie. Je continuai à tourner le bouton, mais sans résultat. C'était toujours le même lointain et léger grésillement que produisait sans doute le petit appareil. À ce moment, j'aurais dû comprendre, mais je ne voulais pas. J'aimais mieux me persuader que pendant la nuit, quelque chose s'était détraqué dans l'appareil. J'essayais encore et encore, mais jamais rien d'autre que ce léger grésillement ne sortit du poste. Finalement, je renonçais et retournais m'asseoir sur le banc. Lynx sortit de la maison et posa sa tête sur mes genoux. Il avait besoin d'être consolé. Je lui parlais, il m'écouta avec attention et se blottit contre moi en gémissant. Il finit par me lécher la main, puis, hésitant, frappa de sa queue le sol. Nous avions peur tous les deux et essayons de nous encourager mutuellement. Je frissonnais sous mon manteau et contemplais le ciel qui pâlissait environ au gris. Je rentrai dans le chalet et allumai le feu. L'idée me traversa que peut-être le terrible mur allait s'avancer lentement dans le silence et l'obscurité de la nuit. Mais j'étais trop fatiguée pour avoir peur. Mes pieds me faisaient toujours mal et je restais longtemps allongée sur le dos, trop lasse pour tourner la tête. Après tout ce qui était arrivé, je devais m'attendre à passer une mauvaise nuit. Mais à peine en avais-je pris mon parti que déjà, je dormais. Je ne rêvais pas, et vers 6 heures, je me réveillais, reposée, au moment où les oiseaux commençaient à chanter. Tout me revint à l'esprit d'un coup, et terrifiée, je refermais les yeux, espérant retrouver le sommeil. Bien sûr, je n'y parvins pas. J'avais à peine bougé que lynx avait déjà compris que j'étais réveillée, et il s'approcha de mon lit pour me souhaiter le bonjour par de joyeux aboiements. Je me levai donc, ouvrit les volets et le fit sortir. Il faisait très frais. Le ciel était bleu pâle et les buissons couverts de rosée. Une journée radieuse commençait. Le mur coupait le petit pré derrière la maison. Et il avait sectionné 2 branches de pommier. En fait, elles n'avaient pas l'air coupées, elles étaient plutôt comme fondues. Si toutefois, on peut se représenter du bois fondu. Je ne les touchais pas. 2 vaches étaient couchées dans la prairie de l'autre côté du mur. Je les regardais longtemps. Leurs flancs ne se soulevaient ni ne s'abaissaient, mais elles avaient l'air plutôt de dormir que d'être mortes. Leurs naseaux n'étaient plus lisses et humides, mais semblaient faits d'une pierre au grain fin, joliment coloriée. Pendant que je m'attardais à regarder les 2 bêtes mortes, j'entendis derrière moi le mugissement d'une vache et l'aboiement excité de lynx. Je me retournai, surprise, et je vis le taillis s'ouvrir et en sortir une vache vivante et mugissante, suivie du chien au comble de l'excitation. Elle vint aussitôt vers moi en mugissant de détresse. La pauvre bête n'avait pas été traite depuis 2 jours et son beuglement était déjà enroué et rauque. J'essayais immédiatement de la soulager. J'avais appris à traire pour m'amuser quand j'étais jeune fille, mais il y avait 20 ans de cela et je n'en avais plus l'habitude. La vache se laissa faire avec patience. Elle avait compris que je ne cherchais qu'à l'aider. Le lait un peu jaune gicla à terre et lynx se mit à le lécher. La vache avait beaucoup de lait et mes mains me faisaient mal à force de répéter ce geste auquel je n'étais pas habituée. Bientôt, l'animal donna des signes de soulagement. Elle pencha la tête et approcha son grand museau du nez roux de lynx. L'examen réciproque dut être concluant car les 2 bêtes parurent satisfaites et calmées. C'est ainsi que je me retrouvais sur un pré inconnu, au milieu de la forêt, propriétaire d'une vache. Nous prîmes donc à 3 le chemin du retour. C'était une bonne chose que d'avoir planté ces branches, cela m'évitait de perdre du temps à tâtonner le long du mur. J'avançais lentement entre le mur et la vache, redoutant que la vache ne se cache une patte, mais elle semblait habituée à marcher en terrain montagneux. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que si cette vache était pour moi une bénédiction, elle représentait aussi une lourde charge. Il n'était plus question d'entreprendre de longues explorations. Un tel animal doit être nourri et trait, il exige un maître sédentaire. J'étais à la fois propriétaire et prisonnière d'une vache. Pourtant, même si je n'avais pas eu l'intention de la garder, il m'aurait été impossible de l'abandonner. Elle avait besoin de moi. Quand nous arrivâmes à la clairière, la nuit était déjà presque tombée. La vache s'arrêta, tourna la tête en arrière et poussa un clair et joyeux mugissement. Je la conduisis à la cabane du garde-chasse. Je portai la table dehors, tirai la paillasse d'un des lits et guidai ma vache dans sa nouvelle étable. Elle était assez grande pour une vache. Je pris un seau en fer blanc, le remplis d'eau et le posai sur le lit vide. C'est tout ce que je pouvais faire ce soir-là pour ma vache. Le lendemain matin ne fut pas aussi intolérable que le matin précédent. Aussitôt que j'ouvris les yeux, la vache me vint à l'esprit. Je me levai et me mis au travail. Il y avait beaucoup d'ustensiles de ménage au chalet et je choisis un seau pour servir de seau à lait. La vache se tenait sagement devant le lit et me salua joyeusement en me léchant le visage. Je commençais à la traire, mais cela marchait moins bien que la veille car tous les os me faisaient mal. Puis je déjeunais avec du lait chaud et des tartines de la veille qui avaient séché. Toute la journée, je m'en souviens, fut consacrée à la vache. J'arrangeais son étable aussi bien que je pus. Dix jours s'étaient écoulés et ma situation n'avait toujours pas changé. Pendant 10 jours, je m'étais étourdie de travail. Mais le mur était toujours là et personne ne s'était mis à ma recherche. Il ne me restait plus qu'à faire face à la réalité. À ce moment-là, je n'avais pas encore perdu l'espoir. Il résista longtemps. Même quand je dus m'avouer que je n'avais plus aucune aide à attendre, cet espoir insensé resta en moi. Un espoir contraire à toute raison et contraire à ma propre conviction. Déjà ce 10 mai, j'étais certaine que la catastrophe avait été d'une très grande envergure. Tout le confirmait, l'absence de sauveteur, le silence des voix humaines à la radio et le peu que j'avais pu voir à travers le mur. Plus tard, alors que je n'avais plus du tout d'espoir, je n'arrivais toujours pas à croire que mes enfants aussi étaient mortes. Elles ne pouvaient pas être mortes de la même façon que le vieil homme près de la fontaine. Ce 10 mai, en me réveillant, je pensais à mes enfants, comme à des petites filles qui trottinaient main dans la main sur le terrain de jeu. Les deux autres, à peine adultes, plutôt désagréables, peu aimantes, querelleuses, que j'avais laissées en ville, étaient devenues tout à fait irréelles. Ce n'était pas leur mort que je pleurais, mais uniquement celle des enfants qu'elles avaient été de longues années auparavant. Il est probable que cela apparaîtra cruel, mais je ne vois vraiment pas à qui je devrais encore mentir aujourd'hui. Je peux me permettre d'écrire la vérité, tous ceux à qui j'ai menti pendant ma vie sont morts. Grelottante dans mon lit, j'envisageais toutes les possibilités qui me restaient. Je pouvais me tuer, ou chercher à creuser un passage sous le mur, ce qui n'était sans doute qu'une façon plus pénible d'arriver au même résultat. Et bien entendu, je pouvais aussi rester ici et essayer de survivre. Je n'étais plus assez jeune pour envisager sérieusement le suicide. C'était surtout la pensée de Lynx et de Bella, ma vache, qui me retenait, et aussi une sorte de curiosité. Le mur posait une énigme, et j'ai toujours été incapable d'abandonner une énigme dont je n'ai pas trouvé la solution. Grâce à la prévoyance de Hugo, je possédais quelques provisions qui suffiraient pour passer l'été, une maison, du bois pour toute une vie, une vache qui était elle aussi une énigme non résolue, et qui attendait peut-être un veau. Le 30 mai, il tomba sans discontinuer une pluie chaude et abondante qui m'obligea à rester dedans si je ne voulais pas être transpercée en quelques minutes. Vers le soir, le temps se refroidit désagréablement et j'allumai le feu. Je terminai mon travail à l'étable, puis, après m'être lavée, j'enfilai une robe de chambre pour lire encore un peu à la lueur de la lampe. J'avais découvert un almanach paysan qui me semblait intéressant. C'est ce soir-là que la chatte arriva chez moi. Elle se tenait blottie contre la porte, un petit tas gris et mouillé qui gémissait. Une fois dans le chalet, elle planta affolée ses griffes dans ma robe de chambre et feula avec colère en direction de lynx qui aboyait. Elle ne se calma que lorsque j'eus enfermé lynx dans la chambre à coucher. Je lui donnai du lait chaud et un peu de viande. Elle avala tout très vite, tout ce que je lui présentais en se retournant sans cesse. Puis elle se laissa caresser, descendit de la table, traversa la pièce et sauta sur mon lit. Là, elle s'assit et se mit à faire sa toilette. Quand elle fut sèche, je vis que c'était une belle bête, pas grosse, mais au pelage bien dessiné. Ce qu'elle avait de mieux, c'était ses grands yeux ronds, couleur d'ambre. Elle avait peut-être appartenu à l'homme debout près de la fontaine, et quand elle avait voulu retourner à la maison après la chasse, elle s'était heurtée au mur. Elle avait erré pendant 4 semaines, m'avait observé longtemps avant d'oser s'approcher du chalet. La chaleur attirante et la lumière et aussi l'odeur du lait avaient eu raison de sa méfiance. Il fallut plusieurs semaines avant qu'elle se rassure et ne craigne plus d'être chassée à coups de pied. Bizarrement, elle parut bientôt se méfier moins de lynx que de moi. Elle n'en redoutait plus de mauvaises surprises et elle commença à le traiter comme une femme capricieuse traite son benêt de mari. Elle se mettait parfois en colère contre lui, lui donnait des coups de patte, puis quand il s'était retiré, elle se rapprochait et s'endormait à ses côtés. Depuis que lynx est mort, la chatte s'est rapprochée de moi. Elle a peut-être compris que nous dépendons l'une de l'autre. En fait, elle était jalouse du chien sans vouloir le montrer. En vérité, je dépends plus d'elle qu'elle de moi. Il suffit que je lui parle, que je la caresse, pour que sa chaleur passe doucement de son corps à mes paumes et me console. Je ne pense pas que la chatte ait besoin de moi comme j'ai besoin d'elle. Avec le temps, lynx fit preuve à son égard d'une certaine sympathie. Elle était devenue pour lui un membre de la famille ou de la meute, et il l'aurait protégée en attaquant n'importe quel assaillant. Nous étions donc 4, la vache, la chatte, lynx et moi. Quand je repense à ce premier été, il m'apparaît bien plus marqué par le souci que je me faisais pour mes bêtes que par la conscience du caractère désespéré de ma propre situation. La catastrophe ne m'avait déchargé d'une grande responsabilité que pour, sans que je le remarque, m'accabler d'un autre fardeau. Quand je pus enfin comprendre ce qui se passait, je n'étais plus en mesure d'y rien changer. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer mon comportement à de la faiblesse ou à de la sentimentalité. Je ne faisais que suivre un penchant qui m'était inné et que je n'aurais pu combattre sans me détruire moi-même. C'est bien triste pour notre liberté. Il est vraisemblable qu'elle n'a jamais existé que sur le papier. Déjà, on ne peut pas parler de liberté extérieure. Mais je n'ai pas non plus rencontré d'homme qui ait été libre intérieurement. Et je n'ai pas éprouvé ce fait comme honteux. Je ne vois pas en quoi ce serait déshonorant de porter le fardeau imposé, comme n'importe quel animal, ni en fin de compte, de mourir comme n'importe quel animal. Je ne sais pas du tout ce qu'est l'honneur. Être mis au monde et mourir n'est pas un honneur. C'est le sort de toutes les créatures et ça ne signifie rien de plus. Les inventeurs du mur, eux non plus, n'ont pas été libres de leurs décisions. Ils n'ont fait que suivre leur besoin inné de savoir. Simplement, on aurait dû, dans l'intérêt général, les empêcher de mettre leur invention en œuvre. Mais je préfère revenir à ce 2 juillet, où j'ai compris, sans équivoque, que ma vie dépendait du nombre d'allumettes qui me restaient. Comme toutes les pensées désagréables, cette constatation me tomba dessus à 4 heures du matin. J'avais vécu jusque-là dans la plus parfaite inconscience, sans jamais réfléchir que chaque allumette brûlée pourrait me coûter un jour de ma vie. Hugo, qui était un gros fumeur, avait pensé aux allumettes. Il avait aussi acheté une boîte de pierres à briquet pour son briquet. Malheureusement, je ne suis jamais parvenue à le faire fonctionner. Je possédais encore 10 boîtes d'allumettes, environ 4000. D'après mes calculs, elles devraient suffire pour 5 ans. Je sais aujourd'hui que mon calcul a été à peu près juste. La réserve durera encore 2 ans et demi si je fais très attention. Je me souviens avoir poussé alors un soupir de soulagement, car 5 ans me paraissait une éternité. Je croyais que je n'utiliserais pas toutes les allumettes. Maintenant, le jour où j'allumerai la dernière me semble très proche. Et pourtant, je me dis encore que ça ne peut pas arriver. 2 ans et demi passeront, puis mon feu s'éteindra et tout le bois entassé autour de moi ne m'empêchera pas de mourir de froid et de faim. Et cependant, je garde au fond de moi un espoir insensé. Depuis que lynx est mort, j'ai besoin de beaucoup moins de viande. Je pêcherai des truites cet été. Et surtout, j'espère avoir une bonne récolte de pommes de terre et de haricots. Mais je n'aurai du lait que si Bellin a un veau. De toute façon, je redoute bien moins la faim que le froid et l'obscurité. Si tout cela arrive, il faudra que je quitte la forêt. Mais cela n'a aucun sens de me mettre Martel en tête au sujet de l'avenir. Je dois seulement veiller à rester en bonne santé et être capable de m'adapter. D'ailleurs, je ne me fais plus tellement de soucis depuis quelques semaines. J'ignore si c'est un bon ou un mauvais signe. Sans doute tout changerait si je savais que Bella attend un veau. Je pense parfois qu'il ne vaudrait mieux pas. Ça ne ferait que reculer la fin inévitable et je serais chargée d'un nouveau fardeau. Mais ce serait beau pourtant, si encore une fois existait quelque chose de neuf et de jeune. Ce serait surtout bien pour cette pauvre Bella qui se morfond dans son étable sombre et attend. J'aime beaucoup vivre dans la forêt. À présent, et il me serait difficile d'en partir. Si je reste en vie, là-bas, de l'autre côté du mur, j'y reviendrai. Parfois, je pense qu'il aurait été agréable d'élever mes enfants ici, dans les bois. Pour moi, cela aurait été sans doute le paradis. Mais je doute que mes enfants s'y soient plus autant. Je crois que le paradis n'a jamais existé. Il ne pourrait y avoir de paradis qu'en dehors de la nature, et c'est ce que je ne peux pas me représenter. L'idée d'un tel paradis m'ennuie, et je n'y aspire pas.